Voilà, que Dieu soit glorifié pour cette matinée que nous passons ensemble. Et nous allons ouvrir la Bible et on va lire un texte dans l'Évangile selon Jean, chapitre 4. Évangile selon Jean, chapitre 4. Et nous commencerons notre lecture au verset 4. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus ici puiser. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu il faut adorer est à Jérusalem. » « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu ?» ou « De quoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ ?» Amen. Avec ce passage, j'aimerais ce matin aborder le sujet d'adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est en effet ce que Jésus va dire à cette femme. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Jésus fera cette recommandation à une femme samaritaine et cette heure est déjà venue puisque Jésus dira au verset 23 « L'heure vient ». Et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et pour bien comprendre ce que c'est que d'adorer Dieu en esprit et en vérité, il est important de considérer ce texte dans son ensemble. C'est pour ça que j'ai voulu lire une grande partie de ce texte. Et comprendre qui étaient les Samaritains, parce que Jésus s'adresse ici à une femme samaritaine. Et d'ailleurs, Jésus va, passer au-dessus de plusieurs barrières qui auraient dû, en fin de compte, empêcher Jésus de s'adresser à cette femme. Tout d'abord, c'était une femme, d'où l'étonnement des disciples, on le voit. En fait, les disciples ont été étonnés de ce qu'il parlait à une femme. Ça ne se faisait pas. Et Jésus a franchi cette première barrière. Une deuxième barrière, et pas des moindres, c'est qu'elle était samaritaine. Et vous, les Samaritains n'avaient pas de relation avec les Juifs, et nous l'avons même lu, eh bien, dans au début du texte, et ça a d'ailleurs même étonné cette femme. Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Donc, Jésus, ici, a bravé une deuxième barrière, et aussi une barrière religieuse, puisque les tensions n'étaient pas simplement culturelles, elles étaient avant tout religieuses. Et Jésus, donc, va passer au-dessus de tout cela pour parler à cette femme afin de lui apporter le salut. Il y avait un conflit qui était là entre les Juifs et les Samaritains, et ce conflit datait de plusieurs siècles en arrière. Il faut comprendre l'origine des Samaritains et ces Samaritains qui étaient venus s'installer en Israël pour remplacer les Juifs qui étaient amenés en déportation. Et ces Samaritains avaient des cultes idolâtres, c'était des païens, et en arrivant, en s'installant en territoire d'Israël, ils ont dû subir quelques maux, et prêtres leur ont dit qu'il fallait qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, et ils ont ainsi appris à craindre l'Éternel, mais il est précisé au sujet des Samaritains qu'en même temps qu'ils craignaient l'Éternel, ils servaient, ils continuaient à servir leur Dieu. Vous voyez, c'était un syncrétisme religieux de l'époque où, eh bien, il y avait, oui, un certain respect pour Dieu, mais en même temps, ils continuaient leurs pratiques animistes, leurs pratiques occultes, et puis leur culte à ces faux dieux, à ces idoles. Et cela avait perduré dans le temps, et puis à Garizim, il y avait là cette montagne de Garizim, où ils s'étaient fait même un temple, et ici, ils adoraient l'Éternel. Et pour eux, c'était un lieu saint, c'était pas Jérusalem, c'était le mont Garizim. D'où la question de cette femme, est-ce ici ou à Jérusalem qu'il faut adorer? Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem, verset 20. Donc on voit ici qu'il y a un fossé qui était là entre ce peuple samaritain et le peuple juif, un fossé qui apportait beaucoup de conflits et il n'y avait pas de réconciliation possible. La seule réconciliation possible, elle se trouve dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Jésus nous a envoyés vers toutes les nations et il a dit, eh bien que nous serons ses témoins, non seulement à Jérusalem, dans la Judée, en Samarie. Jésus a dit quelque chose de révolutionnaire là, hein, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Comprenons bien que maintenant l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. La révélation de l'Ancien Testament n'était pas une révélation dans l'erreur, mais une révélation incomplète. C'était l'ombre des choses à venir, comme il est écrit dans l'Épître aux Hébreux. Parce que la réalité, la pleine vérité, elle se trouve en Jésus-Christ. Et nous avons, dans la Nouvelle Alliance, une grâce extraordinaire, une grâce formidable, celle d'avoir en nous l'Esprit du Dieu vivant. Alléluia. Et maintenant, nous pouvons adorer le Père en esprit et en vérité. Et l'adoration n'est pas ou n'est plus réservée à des professionnels de l'adoration, même si on pouvait, dans l'Ancien Testament, tout le monde pouvait adorer, mais il y avait des professionnels de l'adoration qu'on pouvait appeler les sacrificateurs, car l'adoration était vraiment étroitement liée au sacrifice que l'on pouvait faire. Or, seulement des hommes qui étaient de la tribu de Lévi pouvaient sacrifier à l'Éternel. Mais maintenant, c'est étendu à tous et à tous celles qui confessent le nom du Seigneur Jésus-Christ. L'adoration, c'est bien plus que la louange du dimanche matin. J'allais dire que c'est un mode de vie. Ce n'est pas un événement auquel il faut assister. Et j'espère que nous ne sommes pas venus ce matin dans cet état d'esprit-là pour assister à un événement. Alors, quelle est l'adoration qui plaît à Dieu ? Quelle est l'adoration qui plaît à Dieu ? C'est de s'offrir entièrement au Seigneur. S'offrir entièrement au Seigneur. Dans Romains chapitre 12, verset 1er, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà. Waouh, ça dépasse le dimanche matin, ça. Ce qui est qu'un culte raisonnable, c'est de nous offrir, d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, que son nom soit béni, parce qu'il a fait de nous un peuple de sacrificateurs, à lui seul soit toute la gloire. Et nous sommes, il faut bien considérer cela, que nous sommes faits pour adorer Dieu. Nous sommes faits pour adorer Dieu. Toute la création est tournée vers celui qui a créé toute chose. Dans le psaume 150, au verset 6, il est dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alléluia. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et on pourrait lire d'autres psaumes où la création elle-même est invitée à louer l'Éternel. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1er, verset 11. Épître aux Éphésiens, chapitre 1er, verset 11. En lui, c'est-à-dire en Jésus, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Nous qui avons espéré en Christ, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Il est clair avec ce passage que en lui, en Jésus, eh bien nous servons à la louange de sa gloire. Que son nom soit donc glorifié. Et notre vie n'a de sens que si nous adorons celui qui nous a sauvés. Celui qui a rendu possible cette intimité avec Dieu. Celui qui a rendu possible cette réconciliation, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et c'est pour ça que c'est en lui. Car s'il n'y avait pas eu la croix, nous ne pourrions pas être ses adorateurs en esprit et en vérité, que Dieu soit béni. Et le diable le sait bien. C'est pour cela qu'il cherche il veut ravir l'adoration. Il veut ravir l'adoration. C'est ce qu'il a essayé de faire avec Jésus. Dans Matthieu chapitre 4, on voit la tentation de Jésus et le diable qui lui dit à un moment donné, il lui a montré toutes les nations, tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui a dit, mais je te donne tout cela, je te les donne, si tu te prosternes devant moi. Et là, Jésus lui dira, tu n'adoreras le Seigneur ton Dieu lui seul, et tu le serviras lui seul. Le diable voulait que Jésus se prosterne devant lui et l'adorer. D'ailleurs, parlant de prosterner, nous l'avons chanté tout à l'heure. C'est ainsi que c'est écrit dans le texte. Eh bien, c'est vrai que l'adoration est liée à la prosternation, c'est-à-dire à cette reconnaissance de la seigneurie de notre Dieu, de celui qui est au-dessus de toutes choses. Et nous reconnaissons que lui seul doit être adoré. Nous ne voulons pas nous détourner à droite, à gauche. Nous voulons être ses adorateurs en esprit, en vérité. Nous voulons continuer chaque jour à bénir notre Seigneur. Amen. Adorer en esprit et en vérité. Il y a ici deux choses importantes. Adorer en esprit, mais aussi en vérité. Aussi en vérité. C'est une attitude de cœur. Adorer en esprit. Avant tout, c'est une attitude de cœur. Et là, on voit bien que nous dépassons les règles de l'Ancienne Alliance, où il y avait certains rituels. Nous dépassons ces règles et il n'y a plus un lieu particulier. Ce n'est plus le mont Garizim pour les Samaritains et ce n'est plus Jérusalem pour les Juifs. Ce que Dieu attend de nous, c'est de l'adoration en esprit. Aussi, il n'y a pas de lieu saint. Il y avait cette centralité du temple en Israël. Et on voit que c'est même encore très important pour eux. Il y a ce vestige du mur, la lamentation du mur. Il y a ce mur-là où ils se lamentent devant. Ils mettent des petites requêtes de prière dans les fentes des rochers, là, les fentes des pierres. Mais maintenant, notre centralité, elle n'est plus sur un lieu physique, matériel, un temple. Il est en Christ. Il est en Christ. Alléluia. Alors, bien sûr, il nous faut un lieu pour collectivement bénir le Seigneur. Mais ce lieu-là, en fin de compte, il n'est pas saint. Par contre, Dieu a fait de nous des habitations Dieu en esprit. Amen. Il est dit que nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Et Dieu se plaît à, dans la communion de ses enfants, comme notre bien-aimé frère Jérôme nous l'a rappelé tout à l'heure en introduisant la Sainte-Cène, et il se plaît dans nos cœurs. Et il nous a envoyé en nous l'Esprit de Dieu. Et nous n'avons plus de rituel particulier à observer à la lettre, mais nous adorons en esprit. Et quoi que nous fassions, nous voulons tout faire pour la gloire de Dieu. Aussi est-il écrit encore ailleurs, de glorifier le Seigneur dans nos corps et dans notre esprit, que Dieu soit béni. Alors, après avoir dit ceci, il y a deux dérives qu'il nous faut éviter si nous voulons continuer à adorer en esprit. La première, c'est la matérialisation, excusez-moi, je vais y arriver, du spirituel, matérialiser le spirituel. La deuxième dérive, c'est de spiritualiser le matériel. Et que ce soit les Samaritains ou que ce soit d'ailleurs les Juifs, ils étaient tombés dans ces deux dérives-là. Matérialiser le spirituel. On le voit avec le triste épisode du veau d'or. Moïse était monté sur la montagne, et là, sur la montagne, il a reçu les lois. Pendant ce temps-là, ça faisait des jours et des jours, une quarantaine de jours, que Moïse avait disparu de leurs yeux. Il était entré dans la nuit qui était sur cette montagne. Qu'était-il devenu ? Et ils sont allés trouver Aaron qui restait dans la vallée avec le peuple. Et ils lui ont dit, mais on ne sait pas ce qu'il est devenu, Moïse. Fais-nous un Dieu. Alors, ils ont pris leurs bijoux en or, ils ont mis tout ça dans un moule, et hop, ils ont fait un veau d'or. Et qu'est-ce qu'ils ont dit ? Écoutez bien, ils ont matérialisé le spirituel. Ils ont dit, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Alors ça, ils ont attribué, ils ont détourné la gloire de Dieu. Ils ont fait un veau d'or bien matériel, même s'il était en or, hein, c'est que de l'or. Et ils ont dit, voici ton Dieu. Quoi ? Un objet qui est Dieu ? Ils ont matérialisé le spirituel et on sait malheureusement ce qui s'est passé suite à ça. On sait ce qui s'est passé. Gardons-nous, et la parole de Dieu nous le dit même dans le Nouveau Testament, de nous garder des idoles, de fuir même l'idolâtrie, parce que c'est matérialiser le spirituel. La deuxième dérive, c'est de spiritualiser le matériel. On pourrait dire que c'est l'inverse. Il y a premièrement matérialiser le spirituel, et gardons-nous de cela, mais deuxièmement, spiritualiser le matériel. Et quand on spiritualise le matériel, on n'est plus dans l'adoration en esprit. Et là, je vais prendre deux exemples. On va lire juste un verset dans l'Ancien Testament, dans le premier livre des Rois, au chapitre 18, non, deuxième livre des Rois, excusez-moi, deuxième livre des Rois, au chapitre 18, verset 4, nous sommes à ce moment-là dans l'histoire d'Israël sous le règne d'Ézéchias qui a apporté un réveil spirituel. Ézéchias qui a vraiment ramené le peuple de Dieu à l'Éternel. Et au verset 4, il dit qu'Ézéchias fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait. Car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui, on l'appelait Nehushtan. Dans ce premier exemple, on en prendra un deuxième. On voit ici qu'ils ont spiritualisé le matériel, et c'est pour ça que j'aimerais parler du serpent d'airain que Moïse avait fait. Le peuple, lorsque Moïse a fait ce serpent, c'est Dieu qui lui avait dit de le faire. Le peuple avait péché, encore une fois. Et tous ceux qui étaient piqués par ces serpents mouraient. Aussi, après que Moïse ait crié à l'Éternel, bien l'Éternel lui a dit de se faire un serpent d'airain, de le mettre sur une perche. Et quiconque, regardez, et pas prier, hein, regardez le serpent, était guéri. Il suffisait qu'à ce moment-là, lorsqu'ils étaient piqués par un serpent, mordus par un serpent, ils regardaient cette perche qui était bien en vue, et ils étaient guéris. Jésus reprendra cette image, de même que Moïse éleva le serpent de la terre, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, et il nous parlait à ce moment-là de la croix. Les années ont passé, les décennies, les siècles ont passé. Et cet objet, ils avaient conservé cet objet qui n'a servi qu'à un épisode de l'histoire d'Israël. Et il n'était pas dit qu'il fallait prier ce serpent d'airain, il n'est pas dit qu'il fallait adorer ce serpent d'airain, il n'est pas dit qu'il fallait rendre un culte à ce serpent d'airain. C'était qu'un objet, c'était que du matériel. Il fallait qu'ils placent leur confiance en l'Éternel pour qu'ils soient guéris de cette piqûre, de ce venin. Mais qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient brûlé du parfum devant lui. Ils ont spiritualisé le matériel. Et ça, ce n'est plus une adoration dans l'esprit. Ce n'est plus une adoration dans l'esprit. Le culte dans la Nouvelle Alliance est dépourvu de tout rite. Il y en a un, si on peut appeler ça un rite, la Sainte Cène. Gardons-nous de croire qu'il y a quelque chose de magique, quelque chose qui se passe quand nous prenons le pain et la coupe du Seigneur. C'est un mémorial, nous dit Jésus. Faites ceci en mémoire de moi. Et faites ceci en mémoire de moi. Gardons-nous de cela. Parce que, en fin de compte, ça nous rappelle celui qui est monté sur la croix. Et c'est lui que nous devons adorer. Nous ne voulons donc pas spiritualiser le matériel. Et parfois, on peut spiritualiser même, je parlais tout à l'heure des locaux, c'est pareil. Deuxième exemple, nous le trouvons dans le premier livre de Samuel, chapitre 4. Mais on ne va pas lire ce passage. Je vais juste voir avec vous ce qui s'est passé à ce moment-là. On peut lire juste un verset peut-être. 1 Samuel, chapitre 4, verset 3. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent « Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins ? Allons chercher à Silo l'arche de l'Alliance et qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. » On va s'arrêter là. Israël a été battu par les Philistins. Cuisante défaite. L'arche. Et ils ont voulu aller chercher l'arche, excusez-moi. Et on voit qu'il y a là quelque chose qui, dans ce verset, qui ne va pas. On aurait pu continuer notre lecture et on aurait vu qu'ils sont fait venir l'arche. Au verset 5, il est dit que quand l'arche est entrée dans le camp, alors ils ont poussé des cris de joie, des grands cris de joie. À tel point qu'on peut s'imaginer la scène, ils ont crié de joie, ils ont sauté en l'air. Il est même dit que la terre en fut ébranlée. Tel point que les Philistins, qui étaient bien plus loin, ont entendu le bruit que ça faisait. Ça a dû faire du bruit, hein. Et ils ont eu peur. Mais ce qui s'est passé, c'est que Israël a été encore une nouvelle fois battu à plate couture par les Philistins qui ont même pris l'arche. Mais il y a eu un détournement de la part d'Israël qui déjà, leur cœur s'était tourné vers les idoles déjà. Ils avaient déjà matérialisé le spirituel, c'était le premier point, mais là on voit qu'ils ont spiritualisé le matériel. Pourquoi je dis cela ? C'est que au verset 3, ils ont dit « Allons chercher à Silo l'arche de l'Alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous, qu'elle nous délivre. » Vous voyez pas un problème là ? Est-ce que c'est l'arche qui va les délivrer ou est-ce que c'est l'Éternel ? Le problème, il est là. Ils ne plaçaient plus leur confiance en l'Éternel. Et ils pensaient que d'avoir l'arche au milieu d'eux les rendrait victorieux. Mais le problème, il n'était pas là. Le problème, c'est que leur cœur s'était détourné du Dieu vivant et vrai. Ils ne plaçaient plus leur confiance en l'Éternel. Ils ne craignaient plus l'Éternel. Ils pouvaient craindre l'arche. Mais est-ce que c'était l'arche qu'il fallait craindre ? Ou est-ce que c'était l'Éternel ? Attribuer à un objet particulier une valeur spirituelle s'apparente à la sorcellerie, s'apparente à la magie. C'est de la superstition, c'est du mysticisme, c'est tout ce que vous voulez, mais ce n'est plus une adoration en esprit. Aucun objet, même s'il représente un emblème chrétien, n'a de pouvoir en lui-même. Et si nous pensons que tel objet, même s'il représente un emblème chrétien, va nous protéger de quelque chose, nous ne sommes plus dans l'esprit. Nous ne sommes plus dans l'esprit. Le catholicisme est tombé dans ce piège. Mais gardons-nous d'y tomber aussi. Gardons-nous d'y tomber aussi. C'est tellement subtil. Nous voulons placer notre confiance en l'Éternel. Et lorsque nous plaçons notre confiance en l'Éternel, ça le glorifie. Et nous sommes à ce moment-là en train de l'adorer en esprit. Lorsque nous plaçons notre foi en l'Éternel, il en est honoré. Et nous sommes là, en ce moment-là, en train de glorifier notre Père céleste. Il a mis en nous son Esprit Saint. Nous ne pourrions pas autrement l'adorer, mais il a mis en nous son esprit. Et nous avons cette grâce aujourd'hui dans la nouvelle alliance, d'avoir aucun obstacle entre nous et Dieu, d'avoir cette intimité dans la louange avec notre Seigneur. Il a fait de nous un peuple de sacrificateurs, que son nom soit glorifié. Alléluia. Et nous ne voulons pas, détourner, nous ne voulons pas nous laisser détourner de cela. Nous voulons continuer à adorer Dieu en esprit. Il a mis en nous, dans notre esprit, son esprit par lequel nous disons « Abba Père ». C'est dans cette intimité-là que nous pouvons continuer à le glorifier, à l'adorer. Pas uniquement le dimanche matin, d'ailleurs. Sommes-nous en esprit si nous considérons que le dimanche matin, le dimanche, on va dire, c'est le jour, j'allais dire, supérieur aux autres jours pour adorer? Non. Il n'y a pas de jour. Hein. Il n'y a pas de jour meilleur que d'autres pour adorer le Seigneur. C'est tous les jours que nous sommes des adorateurs en esprit. Lorsque nous sommes chez nous, lorsque nous sommes au travail, quoi qu'on fasse, nous dit la parole de Dieu, qu'on travaille, qu'on soit en train de manger, qu'on soit en train d'écouter, qu'on soit en train de parler, quoi qu'on fasse, nous le faisons pour la gloire du Seigneur. Quoi qu'on fasse. Comme nous l'avons lu tout à l'heure dans Romains chapitre 12, c'est toute notre vie qui est offerte au Seigneur. Et nous voulons continuer à glorifier, bien sûr, lorsque nous chantons, lorsque nous faisons monter nos louanges, nous exprimons ce qu'il y a dans notre cœur, nous l'exprimons à voix haute. Nous l'exprimons à voix haute. Et nous aimons le faire dans le cadre de la communion fraternelle, parce que nous savons que Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. Alléluia. Et Dieu se plaît dans le rassemblement de ses enfants, à lui seul soit toute la gloire. Alors, adorez en esprit. Merci Seigneur, parce que tu as fait de nous un peuple de sacrificateurs, que son nom soit glorifié. Le deuxième point, adorer en vérité. Mais vu que l'heure a passé, on va le réserver pour dimanche prochain. Adorer en vérité, nous verrons ça dimanche, parce qu'il y a les deux sont importants. Adorer en esprit, mais aussi en vérité. On verra ça dimanche prochain. On va prier le Seigneur ensemble et on va vraiment le glorifier de tout notre cœur. Merci Seigneur, parce que tu es venu jusqu'à nous. Nous qui n'étions pas un peuple, tu as fait de nous ton peuple, un royaume de sacrificateurs pour Dieu ton Père. Tu as mis en nous l'Esprit de Dieu. Il y a maintenant cette communion qui est rendue possible. Nous te bénissons, Seigneur. Quelle grâce, quelle joie de pouvoir nous tenir ensemble, Seigneur, dans ta présence pour célébrer ton grand nom. Quel privilège, Seigneur. Tu as répandu ton esprit sur tes fils, sur tes filles, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que jamais, Seigneur, tu ne fais défaut. Toujours tu es présent. Et tu es patient envers chacun d'entre nous, Seigneur. À toi soit donc toute la gloire, Père éternel, pour tout ce que tu as fait dans nos cœurs et dans nos vies. Merci, Seigneur, de nous rappeler ces choses ce matin. Gloire à toi, Jésus. Amen. Amen.